Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, je suis ravie d'ouvrir les carnets du monde avec vous. Le confinement ne nous arrête pas, vous êtes dans votre salon, moi aussi, et malgré tout on part en vadrouille. On s'invite dans quelques pays où le coronavirus est finalement un bon prétexte pour s'asseoir sur les libertés publiques, au-delà des mesures forcément contraignantes et que chacun peut comprendre pour enrayer la propagation du virus. Certains dirigeants s'octroient les pleins pouvoirs ou se débrouillent pour faire taire la moindre voix critique. Dès le début des carnets, on sera en Hongrie, en Russie, en Turquie aussi, et puis en Égypte et en Algérie. Avec Henri de Laguérie à Barcelone, on entendra ensuite l'inquiétude de parents et de psychologues, car en Espagne, on a le droit de sortir son chien, mais pas son enfant, confinement absolu, sans exception pour les plus petits, et forcément, ça fait débat. On sera aussi aux États-Unis, en ligne avec un écrivain américain francophone et francophile, Douglas Kennedy attend notre appel, confiné dans sa maison du Maine. Il nous parlera de cette Amérique blessée et vulnérable. Pour le conseil littéraire du jour, Nicolas Caro, dans sa bibliothèque, a posé le doigt sur la lettre H. H comme Hemingway. Enfin, Joseph Chovanec goûte son confinement, car lorsqu'il sort, dans les limites autorisées bien sûr, il est seul, le rêve pour un philosophe autiste comme lui. Les carnets du monde sont ouverts, première destination, la Hongrie.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Cette crise sanitaire est extraordinaire et tout le monde comprend bien que les réponses le soient aussi pour lutter contre le Covid-19. Mais certains en profitent visiblement et bien au-delà des mesures d'ordre sanitaire tentent de mettre tout le monde au pas. On commence par une virée en Hongrie où Viktor Orban vient de s'arroger les pleins pouvoirs sous prétexte du coronavirus grâce à une loi adoptée le 30 mars. Ses opposants parlent d'une énième dérive autoritaire pour le dirigeant magyar. L'Europe se fâche, mais le leader conservateur avide de suprématie ne voit pas où est le problème. Joël Le Pavou est notre correspondant à Budapest. Bonjour Joël.
Bonjour Sophie.
Alors d'abord expliquez-nous, c'est quoi cette loi coronavirus, puisqu'on l'appelle comme ça ?
Alors cette loi prolonge pour une durée indéfinie l'état d'urgence sanitaire instauré en Hongrie le 11 mars dernier, au départ pour 15 jours, mais surtout elle permet à Viktor Orban de gouverner le pays par décret aussi longtemps qu'il le souhaite, et de déroger à n'importe quelle loi adoptée par l'Assemblée nationale. En clair, comme Orban détient désormais les pleins pouvoirs, le Parlement continue de siéger pour la forme mais n'a plus son mot à dire, au moins jusqu'à la fin de la pandémie. Orban est passé en force grâce aux deux tiers des députés qu'il soutient aveuglément. Ses détracteurs dénoncent un coup d'état et au minimum une nouvelle dérive autoritaire.
Cette loi coronavirus prévoit aussi des sanctions très dures contre toute personne qui propagerait de fausses informations et elle inquiète pas mal les médias indépendants, n'est-ce pas ?
Effectivement, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison pour quiconque diffuserait des fake news ou des informations entravant la lutte du gouvernement contre l'épidémie, des chefs d'inculpation très flous et subjectifs. Ouais. Et comme le gouvernement accuse déjà sans arrêt les journalistes indépendants de raconter des mensonges lorsqu'ils écrivent sur l'exécutif, il est clair que cette nouvelle loi est censée dissuader ceux qui voudraient enquêter, par exemple, sur la manière dont le gouvernement gère la pandémie. Hein. C'est une pression supplémentaire sur les journalistes, m'a confirmé Mercedes Gyökeri du magazine Havege, l'un des derniers grands médias d'opposition. Hongrie.
C'est une menace parce qu'il y a peu d'informations. Notre unique source d'information, c'est une conférence de presse qui est faite tous les jours. On ne peut pas poser directement les questions. On peut poser les questions 2 heures en avance, en écrit. Et puis les modérateurs décident quelles questions vont être posées. Oui, peut-être on écrit des fausses informations, mais pas parce qu'on veut mentir ou propager de fausses informations, mais parce qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'information correcte.
Est-ce qu'au cours de ces dernières années, vous avez eu à affronter de plus en plus d'obstacles à cause du gouvernement et de la conception qu'il se fait des médias ?
Oui, bien sûr. Si, par exemple, je veux poser une question à un ministère, peut-être, ou à une autre agence nationale ou du gouvernement, il n'y a aucune réponse, jamais. Et justement parce que je ne travaille pas à une publication du gouvernement.
Alors cette dérive autoritaire, Joël Le Pavou, on en parle régulièrement dans les carnets. Hein. Ça fait déjà 10 ans qu'elle dure et qu'elle s'accentue en Hongrie.
Oui, 10 ans, Corban tient le pays toujours plus fermement et enchaîne les reculs démocratiques. Hein. On peut citer notamment une constitution où ne figure plus le mot république, une loi sur les médias qui complique considérablement l'activité de la presse critique, une autre sur les ONG accusées d'être des agents de l'étranger, une refonte du système électoral qui avantage le parti du Premier ministre, le Fidesz. Autres exemples, la nationalisation des manuels scolaires, une justice aux ordres, le grand quotidien d'opposition Nepsa Batchag fermé par son propriétaire proche du pouvoir et j'en passe. Au fond, Sophie, cette loi coronavirus, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'une décennie de pouvoir quasi poutinien au cœur de l'Union européenne.
Et alors cette loi très controversée provoque des réactions dans le reste de l'Europe, hein.
Oui, cette manière de profiter de l'épidémie pour donner un coup de canif supplémentaire dans l'état de droit inquiète au sein de l'UE. Ursula von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission européenne, l'a exprimé clairement, estimant que ce régime d'exception ne devait pas durer indéfiniment. Ouais. Le Parti populaire européen, le PPE, auquel appartient le Fidesz de Viktor Orban, est très embarrassé. Depuis un an, le PPE a suspendu le parti d'Orban. Il voudrait éviter de l'en écarter, mais une troisième procédure d'exclusion vient d'être lancée à la demande de certains membres du groupe. Ouais. Et puis, la semaine dernière, 16 États membres ont sorti un communiqué se disant préoccupé par le risque de violation de l'état de droit découlant des mesures d'urgence. Aucun pays n'est nommément cité, mais la Hongrie est évidemment le premier concerné.
Au fait, Joël, comment la Hongrie s'en sort-elle face au coronavirus ?
Alors, la Hongrie compte à peine plus d'un millier de cas pour l'instant, mais cette crise, c'est surtout une façon pour Viktor Orban de se présenter comme un homme fort, un bouclier face au vilain virus, hein, comme il l'avait fait en 2015 au moment de la crise des migrants. Et d'ailleurs, au début de l'épidémie, Orban et ses lieutenants n'ont pas hésité à accuser les migrants de propager l'épidémie. Quant au plan purement sanitaire, en Hongrie, les hôpitaux publics sont loin d'être en bon état et le pays manque cruellement de médecins et de professionnels de santé, partis par centaines vers l'ouest pour mieux gagner leur vie. Ici, un médecin touche 500-600 euros par mois pour des gardes de 24 heures. Ça ne donne pas vraiment envie de rester. Donc on pourrait dire jusqu'ici ça va, mais si le virus devait se propager dans le pays, le système de soins publics serait totalement insuffisant.
Et alors si cela arrivait, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, ce sera très pratique de maîtriser l'information et la communication grâce à cette loi coronavirus. Merci beaucoup Joël Lepavou pour ce décryptage. À bientôt dans les carnets.
Merci Sophie, au revoir.
Et on file un peu plus à l'est pour se poser quelques minutes en Russie et l'on retrouve notre correspondante Elena Voloshin. Bonjour Elena.
Bonjour Sophie.
Dans cet immense pays qu'est la Russie, le Kremlin affirmait jusqu'à tout récemment que la situation était sous contrôle. En réalité, elle est sans doute assez grave, mais là encore, émettre seulement cette idée est plutôt risqué, à l'image de ce qui arrive à une jeune femme de 36 ans qui défraie la chronique chez vous. Racontez-nous.
Oui, exactement. Elle s'appelle Anastasia Vassilieva. Elle est médecin. C'est l'ophtalmologiste personnel de l'opposant russe Alexei Navalny. Et la Russie en entend parler depuis le 10 mars dernier lorsqu'elle publie sur Internet cette vidéo où elle dit notamment ceci.
Non seulement ils mentent sans arrêt au sujet du coronavirus, ils minimisent le nombre de malades, mais en plus, par leur action insensée, ils font accélérer sa propagation.
Alors vous l'entendez, elle n'a pas la langue dans sa poche. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le 10 mars, début mars déjà, le coronavirus fait des ravages en Europe, plus de 10 000 morts en Italie. Le lendemain, l'OMS déclare une pandémie mondiale, mais en Russie, seulement 20 cas sont officiellement déclarés. Et les autorités multiplient les discours rassurants. Quelques mesures de précaution sont prises, comme la fermeture de la frontière terrestre avec la Chine, la limitation de vols en provenance de certains pays et des contrôles aux faciès pour les Chinois à Moscou. Oui,
on en avait parlé.
Ça, c'est une mesure très importante. Mais dans l'ensemble, les Russes poursuivent une vie normale et les autorités semblent vouloir à tout prix en fait éviter la panique.
Et pourtant, comme partout, Elena, il y a bien des raisons de s'inquiéter.
Oui, Anastasia Vassilieva, c'est l'une des premières à tirer publiquement la sonnette d'alarme. Elle accuse les autorités de masquer la situation et les chiffres réels, car dans les hôpitaux russes, et particulièrement à Moscou, c'est la déferlante de patients qui ont tous, soi-disant, des grippes ou des pneumonies. Les médecins mobilisés n'ont aucune information, ils n'ont pas de moyens de protection, et le syndicat que préside Vassilieva, ça s'appelle l'Alliance des médecins, publie quelques plaintes anonymes de médecins inquiets et consternés devant une telle situation. Et là, c'est la déferlante de la part des médias pro-Kremlin qui multiplie les publications pour la diffamer.
Et l'un d'eux a même porté plainte contre elle pour désinformation.
Oui, c'était à la suite d'une vidéo où elle appelle les médecins à refuser tout simplement d'aller travailler sans moyens de protection. C'est un site d'information réputé appartenir à un businessman proche de Vladimir Poutine qui a porté plainte. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le 31 mars dernier, la Russie finit par adopter un paquet de lois pour faire face à la pandémie. Et parmi ces lois, une qui prévoit de punir pour la diffusion de fake news sur le coronavirus.
Ah bah ça fait furieusement penser à la loi coronavirus de Viktor Orban dont on vient de parler.
Oui, exactement, même principe. Il s'agit de distribuer des peines allant jusqu'à jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion de fausses informations sur le coronavirus. La loi suppose que dans les cas les plus graves, ces fake news pourraient entraîner des décès. Or, en Russie, ce n'est un secret pour personne. Le système judiciaire est souvent instrumentalisé pour faire taire les opposants. Donc, il est fort à craindre que Vassilieva, finalement, tombe sous le coup de cette loi avec toutes ses vidéos où elle critique la gestion de la crise par les autorités.
Ouais, la semaine dernière, déjà, d'ailleurs, elle a été violemment interpellée par la police.
Oui, et ce, alors qu'elle tentait de livrer des masques et du matériel de protection aux médecins dans un hôpital provincial russe. Après une garde à vue d'une nuit, sans boire ni manger, elle a été condamnée à une amende pour refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Et pour Amnesty International Russie, son cas révèle que, je cite, « les autorités russes ont plus peur de la critique que de la pandémie mortelle de Covid-19
». Et qu'en est-il justement de l'évolution de la situation, Elena ? Est-ce que les autorités ont fini par prendre le problème à bras-le-corps ?
Oui, mais bien trop tard, estime Vassilieva, comme d'autres d'ailleurs. La croissance de nouveaux cas est désormais, comme partout en Russie, exponentielle. À son tour, le pays a instauré le confinement et un arrêt de travail jusqu'à fin avril. Mais au vu de la propagande et des discours rassurants qui ont précédé ces mesures, eh bien la prise de conscience par les Russes est beaucoup trop lente et du coup, ce confinement est loin d'être respecté. Quant à la situation sanitaire, les autorités construisent des hôpitaux en urgence, même des hôpitaux militaires. Ouais. Mais dans les régions, le personnel médical manque de tout, masques, gants, combinaisons. Ils n'ont rien de tout cela, c'est le système D et parfois même les cliniques de campagne n'ont même pas de système pour tester les patients.
Ouais, c'est ce qui s'appelle un gros retard à l'allumage.
Oui, les conséquences sont vraiment inquiétantes.
Merci Elena pour ces explications. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Et dans un tout petit instant, on va observer la situation dans 3 autres pays dont les dirigeants n'aiment pas non plus entendre des voix dissonantes. La Turquie, l'Égypte et l'Algérie. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer, les 13h15, suite de ce dossier sur la manière dont certains pays instrumentalisent ce moment si particulier de la pandémie mondiale pour faire taire toute opposition.
La Turquie fait partie de ces pays où il est quasi impossible d'accéder à une information indépendante. Là-bas, d'un point de vue sanitaire, le nombre de contaminations augmente en flèche, mais pas de confinement généralisé. Pour autant, seuls les jeunes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 65 ans doivent rester chez eux. Bonjour Cerise Sudri-Ledu.
Bonjour Sophie.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Turquie et vous nous parlez depuis Istanbul. Alors chez vous, gare à ceux qui voudraient faire leur propre enquête. Le gouvernement n'hésite pas à porter plainte pour manquement à la solidarité nationale. Et ça vaut pour les journalistes comme pour tout opposant au pouvoir du président Erdogan. Cela dit, le gouvernement fournit des chiffres quotidiennement sur l'épidémie en Turquie.
Oui, chaque soir, c'est un rendez-vous qui est devenu rituel. Le ministre de la Santé fait un communiqué sur le nombre de nouvelles contaminations recensées dans le pays, sur le nombre de morts, mais aussi sur le nombre de tests effectués par les autorités. Et puis dans les transports, à la télévision, dans les administrations publiques, des messages sont régulièrement diffusés sur les règles d'hygiène à suivre. Dans les rares commerces qui sont encore ouverts, du gel hydroalcoolique est à disposition. Et même si le confinement n'a pas été décrété pour l'intégralité de la population, beaucoup se sont mis au télétravail.
Oui, donc finalement, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Et la parole officielle est parole d'or, puisque, je le disais, il est quasi impossible de contredire le pouvoir, sous peine d'être considéré comme un danger pour la nation. Mais ça, c'était le cas depuis l'été 2016, Cerise, et la tentative de coup d'État contre le président Erdogan. L'épidémie, c'est finalement un prétexte de plus pour verrouiller toute opposition.
Absolument. Et du coup, il est quasi impossible d'avoir d'autres chiffres que ceux qui sont donnés par les autorités. Impossible pour les journalistes de se rendre dans les hôpitaux, les morgues ou les administrations de santé. Ouais. Même le présentateur star de la populaire Fox Télé est désormais sous le coup d'une plainte, car il avait émis des doutes sur la stratégie du gouvernement sur son compte Twitter. Ouais. En bref, fournir une information alternative sur le coronavirus est mission impossible. Et c'est ce que m'a confirmé Ilmi Alatsu, qui est journaliste indépendant.
C'est difficile de faire notre métier pendant la crise. Il n'est pas possible de faire journalisme en Turquie parce que le gouvernement ne veut pas d'une voie différente. Malheureusement, il n'est pas ouvert à la critique. Et pour cela, une enquête indépendante, je crois que pas tout à fait possible pour ce moment. Ce n'est pas possible de collecter des autres renseignements parce qu'il y a une pression sur les docteurs.
Ouais, une pression sur les médecins qui, du coup, évitent de s'exprimer dans les médias. Cerise, il y a encore beaucoup de journalistes en prison aujourd'hui en Turquie.
Oui, alors là encore, difficile d'avoir des chiffres précis. Environ 100 journalistes seraient derrière les barreaux. Et leur libération n'est pas à l'ordre du jour. Le président Erdogan a pourtant décidé de libérer certains prisonniers pour désengorger les prisons. Mais dans la proposition de loi soumise au Parlement, on trouve des prisonniers de droit commun, mais aucun journaliste. Et puis en prison, il y a aussi beaucoup de défenseurs des droits humains, des avocats, des élus d'opposition, des militants associatifs. Et leurs soutiens craignent pour leur sécurité, d'autant que certains sont âgés, comme l'écrivain Ahmet Altan, qui a 70 ans.
Ouais. Cette épidémie de coronavirus, elle permet par ailleurs au régime de mettre en sourdine d'autres infos potentiellement embarrassantes. C'est bien pratique.
Bah oui, fini les sujets encombrants sur une économie turque chancelante ou sur des détentions abusives. Un exemple tragique, la mort la semaine dernière d'une chanteuse d'origine kurde, Elin Bölek, qui est considérée comme proche d'une organisation d'extrême gauche, classée comme terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis. Elle a succombé des suites de la grève de la faim entamée pour protester contre le harcèlement judiciaire des membres de Group Yorum, son groupe de musique. Et très peu de personnes étaient présentes lors de ses funérailles. De toute façon, la police a attaqué dès la fin de la cérémonie. Elin Bölek avait 28 ans.
Ouais, on va écouter un petit extrait d'une chanson de son groupe, Group Your Room, dans lequel il dénonce un système qui conduit certains à une pauvreté extrême. Voilà la voix d'Elin Bölek, 28 ans, chanteuse d'origine kurde, qui est décédée la semaine dernière. Merci beaucoup, Cerise, pour ce coup de projecteur sur la Turquie. Portez-vous bien et à bientôt.
Au revoir, Sophie.
Et on prend la direction de l'Égypte, qui a été le premier pays d'Afrique à être touché par le coronavirus. Mais là-bas aussi, quiconque diffuse de fausses informations sur la pandémie est passible de prison. La correspondante du quotidien anglais The Guardian a été expulsée pour avoir fait état dans un article d'une étude scientifique canadienne qui estimait que le nombre de personnes contaminées en Égypte était probablement très supérieur aux chiffres officiels. Le coronavirus est une occasion supplémentaire pour le président Al-Sisi de durcir la censure. Et cela inquiète beaucoup l'écrivain égyptien Alaa El Aswani, qui m'a répondu depuis Marseille, où il est confiné en résidence d'écriture.
On a toujours un problème avec les dictatures. C'est que les dictatures ne disent jamais la vérité. Alors moi, je ne fais pas confiance au pouvoir égyptien. Il y a une seule personne qui décide, c'est le président Sisi. Et il pense que c'est bien de cacher la vérité pour que l'image soit positive. Personne ne sait ce qui se passe en Égypte, vous voyez.
Human Rights Watch a appelé le Caire à relâcher des détenus pour éviter ce qu'ils ont appelé un désastre épidémiologique, en disant que la situation dans les prisons était absolument explosive.
Terrible. On a des gens en prison qu'ils sont des criminels, ils ont fait des choses, ils ont eu des peines et tout. Mais on a au minimum 30 000 personnes qui ont été arrêtées sans être jugées. Et c'est une manière de punir les gens qui ne sont pas d'accord avec M. Sisi. Alors, j'ai appelé à M. Sisi de relâcher ces gens. Comme ça, il y aura de la place dans les prisons pour faire des précautions, vous voyez. Et c'est pas moi qui a dit ça. Il y a beaucoup d'organisations de droits de l'homme et aussi, la semaine passée, les Nations Unies ont lancé un appel pour relâcher ce qu'ils ont appelé les prisonniers d'opinion, vous voyez, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils se sont exprimés contre Sisi, vous voyez. Et je trouve que il y a une contradiction incroyable, c'est que on ferme un café parce que il y a 30 personnes qui sont dans le café, ce qui fait que c'est vraiment un risque. Et en même temps, on laisse 30 000 personnes dans des prisons où il y a 40 personnes qui couchent dans 20 mètres carrés. La motivation de vengeance chez le dictateur est beaucoup plus forte que la motivation de sauver les vies des Égyptiens, ça c'est sûr. Je sais ça parce que j'ai pas mal d'amis qui sont en prison.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, les familles de ces prisonniers, de ces amis
Que c'est catastrophique, Qu'est-ce que vous attendez? C'est une bombe. Si vous voulez surveiller ces gens à domicile, chez eux, c'est possible. Relâchez-les et surveillez-les. chez eux, vous voyez.
La surveillance générale s'est renforcée, la dictature a profité finalement du virus pour resserrer encore un petit peu la vis sur ses opposants, sur il y en a certains qui viennent d'aller en prison pour diffusion de fausses informations par exemple.
Pas seulement, on n'accepte pas des opinions qui ne sont pas d'accord avec le dictateur, mais tous les gens qui ne sont pas d'accord, on les accuse d'être traîtres.
Et diffuser des informations sur le virus, la propagation du virus, ça peut aussi vous amener à être accusé d'être traître aujourd'hui.
Absolument. Dès qu'un médecin fait une vidéo pour dire qu'on n'a pas de masque dans l'hôpital, alors il commence à dire « Ah, c'est quelqu'un qui est traître. » Il est payé par les ennemis de notre patrie pour faire des problèmes. Et ça, c'est vraiment terrible.
Allah El Aswani, qui d'ailleurs publie chez Actes Sud un essai très à propos, « Le syndrome du dictateur », ça sort en mai, le mois prochain. Et puis on va évoquer un dernier pays où la pandémie a tout mis sur pause, tout sauf la répression contre le mouvement d'opposition au pouvoir qui s'exprime depuis plus d'un an. Vous savez, c'est le Irak, ce mouvement populaire et pacifique qui a notamment obtenu la démission de Bouteflika au printemps dernier. Eh bien, ces militants reprochent aujourd'hui au pouvoir de profiter de la crise sanitaire et du confinement pour tenter de décapiter leur mouvement. Écoutez Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, confiné à Alger et très remonté.
Face à cette nouvelle donne qui était le coronavirus, le Hirak a pris ses responsabilités. Il a appelé de manière unilatérale, dès le début, de manière volontaire et dans l'intérêt de la santé publique et du pays, justement, de suspendre toutes les marches et toutes les protestations de rue. Oui. On espérait en face et en retour que le gouvernement fasse de même, au moins suspendre la répression, parce qu'on sait que le gouvernement, dans sa nature, voilà, a opté dès le début pour justement la répression du mouvement, mais ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, c'était l'inquiétude de la majorité des militants qui ont résisté un moment pour ne pas appeler justement à cette trêve. Ils avaient peur des représailles, ils avaient peur justement du retournement de situation, et malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas.
Concrètement, vous pouvez nous décrire ce qui se passe justement ?
Oui. D'abord, la répression se décline dans le durcissement des peines contre les activistes à l'occasion des procès qui ont eu lieu, notamment le procès de Karim Tabou, le procès qui devait sortir après avoir purgé sa peine de 6 mois, qui devait sortir le 26 mars. Malheureusement, à 2 jours de sa sortie, le parquet a intenté un recours et ils l'ont rejugé encore une fois en deuxième instance pour une année de prison ferme, de manière à l'empêcher de sortir. Le cas aussi d'autres figures du Irak, d'autres militants qui ont été même acquittés et carrément libérés, ils ont été remis en prison. Maintenant, depuis une semaine, nous assistons vraiment à une répression en Syrie contre les activistes, c'est-à-dire que chaque jour, il y a un procès qui est intenté contre un activiste, chaque jour, il y a des convocations qui arrivent dans toutes les wilayas d'ailleurs, devant les commissariats, donc voilà, c'est vraiment une situation qui fait peur, au point où nous disons aujourd'hui que le pouvoir en profite de cette trêve sanitaire pour justement, voilà, en finir avec le Hirak.
Ces arrestations, ces convocations, elles se font au nom de quelles lois, de quels articles du code pénal ?
C'est les mêmes articles qui reviennent à chaque fois, c'est atteinte à l'international, atteinte au moral de l'armée, c'est incitation à attroupement, parfois même incitation à la violence, alors que le mouvement, le Hirak, depuis son éruption le 22 février, l'a démontré de manière résolue qu'il s'agit d'un mouvement pacifique. Donc aujourd'hui, voilà, nous assistons justement à cette utilisation abusive et ce recours abusif justement à des chefs d'occupation qui n'ont aucune raison d'être évoqués dans face au Hirak. Au point où maintenant nous avons des dizaines, près de 40 personnes qui sont en prison, en détention provisoire, sans jugement. Le gouvernement pense qu'en arrêtant les militants, en tentant de décapiter en quelque sorte le mouvement, c'est une manière un peu de ne pas l'empêcher de reprendre après cette crise. Alors là, bon, moi je dis, il se trompe. Le confinement, c'est un confinement qui doit avoir pour un seul objectif, justement, c'est l'endiguement de la crise sanitaire. Alors qu'aujourd'hui, voilà, le gouvernement utilise ce confinement pour justement s'attaquer au Hirak et s'attaquer aux libertés déjà acquises. Aujourd'hui, on voit beaucoup de militants, même de journalistes, qui ont été poursuivis pour juste avoir exprimé une opinion contradictoire, même une critique par rapport à la gestion de la crise sanitaire.
le confinement instrumentalisé, dit Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Et c'est ainsi que l'on referme ce petit dossier sur les menaces qui pèsent parfois sur les libertés publiques au nom de la lutte contre un très méchant virus. Et dans un instant, on change d'air et on ouvre un très bon bouquin avec Nicolas Carreau.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h avec Sophie Larmoyer. C'est l'heure maintenant d'un livre dans le monde, le rendez-vous littéraire des carnets avec Nicolas Carreau. Plus nécessaire que jamais car vous avez sans doute un peu plus de temps pour lire.
Et il nous aide à nous déconfiner chaque dimanche, à nous échapper à travers les pages d'un roman. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Avec vous, on poursuit notre tour du monde des grands classiques à relire pour s'évader. Et cette fois, vous nous emmenez à Cuba.
Avec un court roman, un peu plus d'une centaine de pages seulement, mais un grand livre, Le vieil homme et la mer, ah, d'Ernest Hemingway. L'écrivain américain l'a écrit à Cuba en 1951. L'histoire de Santiago, un vieux pêcheur cubain. Il part encore pêcher avec sa petite barcasse, mais il ne rapporte plus jamais rien. Il emmène souvent avec lui le petit Manolin, un jeune garçon du coin, mais ses parents finissent par lui interdire d'accompagner le vieil homme et l'envoie sur un bateau qui rapporte du poisson, lui. Piqué au vif, Santiago décide de prouver à tout le monde de quoi il est encore capable. Il part au large, très loin, il lance sa ligne et là, miracle, un marlin, c'est-à-dire un espadon, ça ressemble à un espadon, un énorme poisson, en tout cas, mord sa ligne. Il faut maintenant le remonter à bord, ce ne sera pas sans difficulté, le poisson se défend bien, mais Santiago aussi. Le combat durera 3 jours et 2 nuits. Le vieillard n'en peut plus, il est épuisé, affamé, ses mains sont en sang à cause de la friction du fil, mais il tient bon.
Et il finit par le ramener dans son bateau.
Oui, ou plutôt contre son bateau. Le poisson est trop gros, presque aussi gros que le bateau. Il l'accroche sur le côté de sa barque et il met les voiles direction la plage, chez lui. Le problème, c'est qu'il est loin au large maintenant. Il y a de la houle et avec un marlin sur le côté, on n'avance pas très vite, je peux vous dire. Et on attire les requins. À coup de rame, Santiago va se battre contre les prédateurs qui veulent croquer de son marlin. Peine perdue, le vieil homme se bat bien, mais les requins sont très motivés. Quand il rentre à bon port, le marlin est toujours accroché sur le côté du bateau, mais il ne reste plus que son énorme arête et son long bec.
Et il a donc tout perdu.
Si on veut, mais selon l'écrivain Yann Kefelek, grand admirateur de ce livre, Santiago a en fait tout gagné.
Il a tout perdu et il a gagné. D'abord, il a regagné la confiance du gamin en lui prouvant qu'il pouvait attraper le plus beau des poissons. Et en même temps, il a gagné contre lui-même parce que même si son marlin a été boulotté par les requins, eh bien, il s'est quand même prouvé qu'il pouvait l'attraper et que finalement c'est ça un homme. On ne peut pas le vaincre, on peut au mieux annihiler ses prises. Je fais l'éloge du courage humain et encore une fois de la victoire dans la défaite, ce qui est vraiment la spécificité de l'homme dans la nature.
La victoire dans la défaite, c'est la leçon du livre ?
Oui, il y est question d'honneur, de dignité, de courage. Alors l'idée de départ n'est pas très engageante. Un homme qui pêche, on a vu des pitchs plus excitants. Et pourtant cette lutte entre le marlin et l'homme, pleine de respect, puis cette bataille contre les requins, vous emporte. On ne peut plus lâcher le livre. Un mystère qui tient au talent d'Hemingway, bien sûr, mais aussi peut-être au phénomène d'identification.
C'est cette identification avec tous les éléments du livre, à la fois avec la parole d'Hemingway, parce que on a l'impression qu'on aurait pu parler aussi bien que lui, avec ce style, comme ça, qui est d'une simplicité enfantine et lumineuse. On s'identifie à la barque, on s'identifie au vieillard que l'on n'est pas encore, on s'identifie à ce poisson mort, on souffre avec lui comme s'il était vivant, et comme si les crocs des requins s'enfonçaient dans notre propre chair.
Alors vous le rappeliez, Nicolas, c'est un livre écrit en 1951, il a été publié en 52, je crois. Est-ce qu'il a bien marché à l'époque ?
Succès immédiat, le dernier livre d'Hemingway édité avant son suicide en 1961. Hemingway qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 54, donc juste après la parution du Vieil homme et la mer.
À lire ou à relire donc, hein, Le Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Merci beaucoup Nicolas, rendez-vous dans une demi-heure pour La Voix et Livre. Et dites, dans un genre beaucoup plus contemporain, si vous deviez conseiller un Douglas Kennedy, ce serait lequel ?
Ah, j'adore Douglas Kennedy. Alors, soit un de ses tout premiers, je crois que c'est même le premier, Cul-de-sac, qui est un polar, ou La Symphonie du hasard, qui lui fait 3 tomes, mais qui est génial. C'est une grande fresque sur l'histoire de l'Amérique, finalement.
C'est noté aussi. Et Douglas Kennedy, eh bien, on l'appelle tout de suite chez lui, où il est confiné.
Europe 1, les carnets du monde.
Oui, Nicolas Carreau a cité à l'instant Cul-de-sac ou La Symphonie du hasard, mais il y a aussi, entre autres, L'homme qui voulait vivre sa vie ou La poursuite du bonheur. Douglas Kennedy est donc votre invité, Sophie Larmoyer.
Plus de 8 millions d'exemplaires vendus en France, 16 millions à travers le monde. Douglas Kennedy est un auteur américain particulièrement apprécié ici. Bonjour Douglas Kennedy.
Bonjour, j'espère que tu vas bien.
Très bien.
Dans votre huis clos.
Et... Absolument. Merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre justement depuis votre confinement dans l'état du Maine aux États-Unis. Comment ça se passe pour vous?
Écoute, en fait, c'était pour moi nécessaire en fait, d'être ici avec ma fille. Et le confinement pour moi, c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. En même temps, on accepte. Je suis au milieu de prochains romans et je lis beaucoup. Aussi, une autre chose, en fait, j'insiste pour que je parle avec un copain ou une copine pour une demi-heure, 45 minutes tous les jours. Ça, c'est essentiel, maintenir une connexion et aussi surtout une heure avec mon fils à Londres. Mais le fait qu'on est complètement isolé, c'est vertigineux, c'est hallucinant. Et aussi, c'est très romanesque.
Ouais. Les bilans quotidiens des victimes du coronavirus aux États-Unis sont désormais les pires au monde. Alors qu'il y a très peu de temps, Donald Trump affirmait que tout serait terminé pour le dimanche de Pâques, qu'il espérait que les églises seraient pleines. On y est au dimanche de Pâques. Est-ce que l'Amérique a pris conscience du désastre sanitaire en cours?
Je pense de plus en plus, en fait, l'Amérique éduquée comprend qu'on est au milieu d'une catastrophe. Vraiment. Le fait qu'on a eu une guerre culturelle ici aux États-Unis depuis les années 60, il y a deux Amériques, on déteste l'autre. Et franchement, depuis l'époque de Reagan, le service public, l'infrastructure, l'éducation, la santé... Les budgets ont été coupés par des présidents républicains et pas énormément augmentés par les deux démocrates. Et maintenant, on est dans une situation avec une économie presque comme le 19e siècle, avec un aspect de darwinisme social aussi. C'est tragique et surtout pour moi dans ma vie natale. Je suis New-Yorkais, comme M. Trump.
Ouais.
Je suis New-Yorkais. L'héritage de Mitterrand, c'est le Brooklyn de quartier populaire. Et c'est hallucinant, la situation là-bas. 800 morts par jour dans la ville. Et le fait qu'on n'a pas la capacité, en fait, franchement, d'aider, en fait.
On découvre une Amérique très vulnérable, en fait.
Hyper vulnérable et pas très préparée. Mais une autre chose aussi, et ça c'est la tragédie de cet instant, le fait qu'on a, comme on a dit aux États-Unis, en fait, le gig economy, des gens qui vivent franchement jour par jour, qui travaillent dans des secteurs en fait, où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de l'assurance médicale.
Mais c'est ça, on a beaucoup parlé de l'économie américaine florissante ces derniers mois pendant la campagne, et puis là on découvre, à l'occasion de cette pandémie, que 30% de la population n'a aucune épargne, pas un sou devant elle, que 30 millions d'Américains ont une couverture médicale extrêmement faible ou inexistante. Ce sont ces deux Amériques dont vous parlez?
Oui, deux Amériques totales. Mais il y a des exemples des gens positifs. Netflix a dit on va payer tout le monde et ils ont investi, oh mon Dieu, c'est 100 millions de dollars pour payer en fait leur équipe. Ça, c'est extraordinaire. De l'autre côté, il y a une agence à Hollywood. Tout le monde a été licencié sans assurance médicale.
Douglas Kennedy, en trois semaines, il y a plus de 10% de la population active américaine qui se retrouve au chômage. Ça veut dire que les dégâts sociaux vont être terribles.
Oui, tout à fait. Et on va payer un prix immense quand, en fait, la vie quotidienne recommence. Ce n'est pas comme tout le monde pense maintenant. Oh oui, en fait, les banques vont dire « Ok, pas de problème avec vos dettes. » Au contraire, le prix sera immense. Et pour moi... La chose la plus importante, c'est une stabilité sociale. Si ça peut être maintenu, on a besoin maintenant d'une Franklin Roosevelt. On a, en fait, Joe Biden, qui est pas mal, mais ce n'est pas une Franklin Roosevelt. On a une Franklin Roosevelt, il s'appelle Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, qui a été absolument extraordinaire.
Oui, qui s'est révélé,
au milieu de... au milieu de cette crise. Mais il n'est pas le candidat démocrate. Mais un autre aspect de ça aussi, et c'est quelque chose que j'ai dit depuis longtemps, et ce n'est pas un point de vue très populaire ici aux États-Unis. Mais j'ai dit, il y a deux ans, en fait, quand la symphonie de 20 est sortie, les États-Unis, maintenant, c'est la fin du siècle américain. On est dans, en fait, la même position que, en fait, le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale en 1918. Notre pouvoir, franchement, ça commence de décliner.
Le virus a abîmé l'image du rêve américain ?
Complètement, complètement. Mais aussi, en fait, un système hyper capitaliste. Depuis 40 ans, quand la classe moyenne a été détruite, et ça coûte, en fait, entre 40 et 60 000 dollars de passer un an dans une université ici. C'est absolument absurde. Est-ce qu'il y aura un grand changement du système? En fait, ça sera mon espoir, mais je me doute ça. Je me doute ça. Et c'est tragique. Tous les jours, en fait, j'ai des emails des copains, en fait, à New York, des copains, copines, des artistes. J'ai une grande passion pour le jazz, par exemple. Ouais. Et je connais beaucoup d'artistes et un copain à New York, pianiste de jazz, connu, en fait, mais il m'a dit, honnêtement, pas de club, pas de séance, pas d'étudiants, j'ai rien. Peut-être que je vais recevoir, en fait, 1 200 $ du gouvernement fédéral. Ça va durer, si je peux économiser, en fait, 3-4 semaines, en fait, d'alimentation, parce qu'il a 2 enfants. Ouais. Et après ça, je ne sais pas. Et il y a, j'imagine, 60 millions des histoires comme ça maintenant. Et je ne sais pas. Ça, c'est la phrase américaine aujourd'hui.
J'ai lu sur votre site officiel en français que votre mot préféré, c'était « voyage » et que le mot que vous aimez le moins, c'est « quotidien ». Alors là, il va falloir tout revoir avec le confinement. Cette épidémie, elle nous pousse à repenser nos vies autrement, demain, après-demain ?
Écoutez, c'est vrai que maintenant, pour la première fois dans ma vie, en fait, beaucoup de pays sont fermés, par exemple. Impossible de revenir à Paris, où j'ai un appart depuis longtemps. Ça, c'est un peu hallucinant. Je comprends pourquoi, en fait. Mais j'espère que quand on va revenir dans la vie quotidienne, on va réfléchir, franchement, des valeurs importantes. Et surtout ici aux États-Unis, en fait, ce n'est pas simplement une question de l'argent. C'est aussi une question de la société, une question de l'humanité et aussi de l'éducation et aussi de la culture. Et on a oublié ça ici. Et maintenant, on voit le fait qu'on n'a pas une infrastructure de santé capable pour une crise comme ça. Et on est les États-Unis, en fait. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et honnêtement, c'est nous qui avons créé cette catastrophe.
Rapidement, juste avant vous, notre chroniqueur littéraire Nicolas Caro nous conseillait de relire « Le vieil homme et la mère » d'Hemingway. Est-ce que vous auriez un petit conseil spécial confinement à nous donner, vous aussi ?
Ah, « Crime et châtiment » de Dostoevsky. C'est le moment juste pour ça. Mais aussi, en fait, c'est évident, la peste de Camus.
Bien sûr. Qui bat des records de ventes un peu partout dans le monde, et notamment, m'a dit mon correspondant, notre correspondant au Japon. Merci beaucoup. Merci Douglas Kennedy. Votre prochain roman, Isabelle l'après-midi, va sortir le mois prochain, en mai, et on l'attend avec impatience ici en France. Portez-vous bien. Take care, comme on dit chez vous.
Et portez-vous bien aussi.
Et ensemble, on se fait un petit cadeau qui nous permet d'envoyer une grosse pensée aux habitants de New York qui sont au cœur de la pandémie. Voici Billy Joel, son piano, New York State of Mind.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Rockies under the don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
State of Mind, hommage signé Billy Joel. Et c'est en Espagne qu'on file dans un tout petit instant pour évoquer une disposition qui fait débat chez nos voisins du Sud pendant le confinement. Interdiction pour les enfants de mettre le nez dehors.
Europe 1, les carnets du monde.
Toujours avec vous, Sophie Larmoyer. Quand on a de jeunes enfants, le confinement n'est pas toujours simple. Eh bien, c'est encore plus compliqué en Espagne.
L'Espagne est le seul endroit en Europe où les plus jeunes n'ont le droit de sortir sous aucun prétexte, même pas pour prendre l'air, se défouler, faire un peu d'activité physique. Et c'est évidemment avec Henri de Laguérie, notre correspondant confiné à Barcelone, qu'on en parle. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Alors chez vous, les enfants ont complètement disparu de l'espace public.
Oui, effectivement, et ces rires d'enfants... Eh bien, on ne les entend plus qu'à l'intérieur des appartements et des maisons. Ouais. Ici, dans la rue à Barcelone, les rares personnes que l'on croise sont des gens qui vont faire leurs courses ou qui promènent leurs chiens. Mélissande a un fils de 4 ans, elle commence à trouver le temps long.
Je suis super inquiète, évidemment. J'essaye de parler à des pédiatres ici pour savoir quel peut être l'effet justement de ne pas socialiser en plus de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir d'autres enfants, de ne pas avoir de gens à part ses parents ou à part des gens sur Skype. Et oui, je suis inquiète parce que je sais que bon, la vitamine D, on peut la prendre par complément, mais c'est pas pareil que d'être dehors et de profiter du grand air. Et je vois mon enfant beaucoup plus irritable ces jours-ci.
Henri, le confinement est très strict en Espagne, il n'y a pas de dérogation, rien n'est prévu pour les enfants.
Non, et figurez-vous que dans le décret officiel qui détaille la mise en place de l'état d'urgence, alors on appelle ça ici l'état d'alarme, ouais, il y a 3 références aux animaux de compagnie, aucune aux enfants, et ça forcément ça choque les parents.
C'est très étrange de pouvoir sortir son chien et de ne pas pouvoir sortir son enfant. On pourrait soupçonner que l'Espagne... Ne fait pas autant attention aux enfants qu'aux chiens. Et c'est très inquiétant, effectivement.
Henri, qu'est-ce que cet oubli dit de l'Espagne ?
Ça nous rappelle notamment qu'ici, la natalité est l'une des plus basses d'Europe. Et ça peut vous paraître choquant, dit comme ça, mais c'est vrai. Il y a plus de chiens dans le centre-ville de Madrid que d'enfants de moins de 4 ans. J'ai discuté de tout cela avec Heike Frere. Elle est pédagogue et philosophe.
Le fait de vraiment soigner et garder les enfants... C'est ce qui nous fait humaines à la société. Quand on ne parle pas d'enfants dans nos lois, quand on ne visibilise pas, on ne rend pas visibles les enfants, on est en train vraiment de devenir inhumaine.
Henri, comment font les parents célibataires ou séparés ? Il y a une exception pour eux quand même ?
Oui, c'est vrai, mais malgré tout, c'est encore plus compliqué pour eux. Écoutez, Christina, elle vit en banlieue de Barcelone, seule avec son fils, et quand elle va faire ses courses, c'est vraiment pas un moment agréable.
Mon fils, il est toujours trop petit pour rester seul à la maison. Donc, il m'accompagne faire nos courses. Et c'est là où l'on se sent criminalisé, en quelque sorte. On a été même interrogé par la police, les gens nous regardent bizarrement, puisque les enfants sont soupçonnés d'être porteurs de la maladie, etc., etc. Et voilà.
Ah ouais, effectivement, elle se sent montrée du doigt, quoi. Est-ce qu'on sait quelles peuvent être les conséquences du confinement total pour les enfants espagnols, pour leur développement, Henri ?
En fait, ça dépend de l'âge et de la situation de chacun. À part le manque de soleil qui les concerne tous, la pédagogue Heike Frerer rappelle qu'il est recommandé pour leur équilibre que les enfants passent 3 heures par jour à l'extérieur de chez eux, qu'ils socialisent avec d'autres enfants. Et puis, il y a le risque de l'addiction aux écrans. Et pour les plus petits qui commencent tout juste à marcher, c'est également un problème. Ouais. Et enfin, plus grave, il y a aussi le risque des violences intrafamiliales.
Dans certaines populations, par exemple, qui sont plus démunies sur le plan économique, c'est un environnement où les parents sont angoissés parce que peut-être ils vont perdre leur emploi et peut-être il va y avoir des mauvais traitements aux enfants, il va y avoir de la violence dans la famille et ça on le sait qui est en train d'arriver maintenant.
Dans toute l'Espagne, à la fenêtre des appartements, les enfants ont dessiné des arcs-en-ciel avec ce slogan « Todo ira bien », tout ira bien. Mm. Mais ce confinement affecte le moral des enfants, c'est le cas du fils aîné de Barbara, il a 9 ans.
Mon fils de 9 ans, il y a quelques jours, il ne voulait même pas sortir du lit. Il m'a dit non, pourquoi faire il a commencé un peu, voilà, une déprime, quoi, et qu'on a fait tout doucement tout ce qu'on pouvait ici pour sortir nos nez des clowns. On fait tout ce qu'on peut pour qu'il soit bien, mais ce n'est pas évident.
Et avec son mari, Barbara est en télétravail, ils habitent à Sitges, c'est au sud de Barcelone. Elle essaye tant bien que mal de s'occuper de ses enfants, c'est sa priorité, dit-elle, mais elle s'inquiète des effets à long terme de cette crise.
On n'arrête pas de cuisiner, de dessiner, d'écouter la musique, mais pour les enfants, je trouve que c'est terrible, quoi. Ils me demandent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir, même pas sortir la poubelle. C'est affreux. Moi, j'ai peur que ce soit les enfants déprimés dans le futur. Ça, c'est un truc qui m'est tracasse énormément. Tu sais, ça n'aide pas trop le penser ça parce que ça me fait mal au cœur. Et ici, il faut rester fort pour eux.
Voilà, alors Henri, le sujet fait réagir hein, en Espagne. Des dizaines de milliers de personnes ont signé une pétition pour réclamer un aménagement pour les enfants, c'est ça ?
Oui, effectivement, et c'est Heike Frerer qui est à l'origine de la pétition.
Nous demandons au moins une heure dans cette situation spéciale, y compris des mesures très, très restrictives comme celles qui ont été mises en place en Italie, où les enfants ont le droit de sortir pendant très peu de temps avec un seul parent, et puis de cheminer vers la situation, par exemple, qu'ils ont en Allemagne ou dans certains Länder, les enfants peuvent se rencontrer avec d'autres enfants, un maximum de 5 enfants, qui puissent jouer tout le temps les mêmes enfants.
Voilà, les parents seront peut-être entendus, puisque le ministre espagnol de la Santé s'est dit ouvert à une certaine flexibilisation du confinement pour les enfants. En attendant, chaque soir, eh bien, ces enfants, eux aussi, participent au rituel des applaudissements pour le personnel soignant.
Voilà, joli, un petit défoulement.
Bravo.
Ça sent le reportage à la maison, ça, en tout cas. Merci beaucoup, Henri. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
Europe 1, les carnets du monde.
Et on va terminer notre grande vadrouille par une petite virée en autistan grâce à notre guide Joseph Chevanec, philosophe, grand voyageur et autiste Asperger. Et il est en ligne avec vous, Sophie Larmoyer.
Joseph est en ligne car confiné, lui aussi bien sûr, mais en Belgique. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors qu'est-ce que le confinement vous a inspiré cette semaine ?
Ah, parfois les choses sont très compliquées pour les autistes. Le fait que les rayons de pâtes soient vides dans les magasins par exemple. Mais il y a des choses formidables, uniques même. Le plus appréciable, ce pourrait être enfin de profiter des lieux vides.
Ah ben là, c'est sûr que c'est plutôt calme en ce moment dehors, tant mieux d'ailleurs.
Oui, et ouf, mais pendant longtemps, je n'avais pas pu comprendre pourquoi les gens en général avaient peur de se retrouver seuls quelque part. Durant mon enfance, je pensais que tout le monde était comme moi, à savoir que moins il y avait de gens autour, moins il pouvait y avoir de problèmes. Ma prise de conscience a eu lieu au début de mon militantisme dans l'autisme. Je m'étais retrouvé un jour avec une psychiatre dans un jardin public vide. Elle m'avait demandé demandé que l'on parte car elle avait peur. Moment de stupeur de ma part.
Oui, parce que vous, au contraire, vous déployez des stratagèmes pour trouver des endroits tranquilles.
Oui, et pendant des années, j'ai trouvé mille et une astuces pour être, par exemple, seul dans un train. Je garderai d'excellents souvenirs de ce train entre France et Allemagne, encore avant l'arrivée du TGV sur ces lignes, où on pouvait être absolument seul passager d'un train international filant dans la nuit noire. Sauf que depuis, virus oblige, le monde a basculé et les idéaux autistiques deviennent la norme. Avec une pointe d'envie, je regarde passer les trains dans ma gare en Belgique. Par réflexe, je compte les passagers et en général, il n'y en a aucun. Hein, personne sur les quais. Le rêve. Dans les journaux, on voit des photos de villes qui se vident. Ouais. Ça donnerait presque envie de se réinstaller à Paris.
Et là où vous êtes, Joseph, c'est calme aussi, même si votre confinement, si je comprends bien, est plus souple qu'ici en France.
Mais oui, ici dans la lointaine périphérie de Bruxelles, je peux désormais marcher pendant des heures dehors sans rencontrer personne. Mmh. Et ce n'est pas qu'une question de bruit me concernant, mais dès qu'il y a d'autres personnes dans la rue, il faut s'efforcer d'anticiper leurs mouvements pour ne pas se croiser sans difficulté, ce que je ne parviens pas, d'où des poussées d'angoisse. À signaler une invention belge tout à fait appréciable, le Ravel.
Qu'est-ce que c'est que ça, le Ravel ?
Ah, en Belgique, le mot Ravel fait partie du langage commun, mais c'est un sigle en fait. Ça veut dire réseau autonome des voies lentes. Ce sont des milliers de kilomètres, notamment des anciens chemins de fer, qui sont réservés aux marcheurs. On peut se rendre virtuellement partout en Ravel, le
génial,
plus souvent en évitant tout stress. Autre aspect, le long du Ravel, en particulier pendant l'épidémie actuelle, fleurissent des initiatives locales de dons ou de ventes. Par exemple, un inconnu laisse des livres ou des outils gratuitement. D'autres vendent des produits. Il n'y a pas de vendeur visible. On paye à la maison voisine. Et pas très loin de chez moi, quelqu'un vend des vélos à 25 euros pièce seulement. Reste à trouver le courage de sonner à la porte.
Et donc, vous en profitez pour faire de grandes balades, si je comprends bien.
Oui, et je crois que pendant ces balades silencieuses, on vit beaucoup plus intensément les choses. Dimanche dernier, j'ai fait le fou. Je suis allé à pied jusqu'à Waterloo, à une très longue marche. Wow. Et pendant mon enfance, j'avais beau eu lire beaucoup de choses sur Napoléon, mais se retrouver seul avec le vent de la plaine dans ces lieux chargés d'histoire a quelque chose d'unique. Et c'est là qu'on a enfin une réponse à cette question existentielle. Wat heb ich nou aan mijn fiets hangen? Vous l'avez compris, dès lors qu'il est question de dicton flamand ou néerlandais, c'est que le sujet, ce sont les vélos.
Ah oui.
Littéralement, qu'est-ce qui est accroché maintenant à mon vélo, hein? En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe d'important? La réponse, c'est la vie, tout simplement.
Ah, merci pour ce petit moment suspendu de poésie. On était avec vous dans le Ravel et sur la plaine de Waterloo. Et alors, juste une petite question indiscrète en passant, Joseph. Vous avez osé sonner pour acheter le vélo ?
Oui, gros stress, mais victoire, j'ai un vélo.
Bravo, bonne semaine à vous et à dimanche prochain.
Merci, à tout bientôt.
Merci de nous avoir accompagnés. Il est l'heure de refermer les carnets du monde. Et vous pouvez nous écrire sur l'adresse suivante, lescarnetsdumonde@europe1.fr. C'est une nouvelle adresse mail spécialement pour que vous puissiez nous raconter votre expérience à l'étranger du confinement, de cette lutte contre le coronavirus dans le pays où vous vivez. N'hésitez pas, lescarnetsdumonde@europe1.fr. Jocelyn, qui vit à Toyama au Japon, nous a écrit la semaine dernière. Merci à Nicolas Six qui a réalisé cette émission, à Florence Gimala qui m'a aidé à la préparer.